I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Un petit avertissement pour l'épisode d'aujourd'hui où le thème du suicide sera abordé. On est consciente que c'est un sujet délicat chez certains. Si vous avez besoin d'aide et que ce genre de pensée vous traverse l'esprit, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, par exemple, auprès de Suicide Action Montréal au 1-866-277-3553. Aujourd'hui, je vous raconte le drame de Charles Marion.
Et moi, je vous parle du mystère qui entoure la disparition d'Isabelle Bourgeot.
Vous écoutez le balado Captive. Michel, je ferai pas une grosse introduction aujourd'hui parce que c'est une très longue histoire, un petit peu plus longue que d'habitude. Mais bon, juste pour te mettre en contexte, tu te rappelles en 2020, toi et moi, on a créé un groupe Facebook qui s'appelle « Crime réel et faits étranges au Québec ».
Bien sûr!
Au début, on a posé la question aux membres du groupe pour savoir quelles histoires de crimes au Québec les a le plus marquées. Bon, ça s'est avéré que certaines réponses nous ont donné des idées de sujets pour captives. Puis, tu vas peut-être t'en rappeler, mais on a vraiment resté surprise de la réponse de mon père. Ben, de un, parce qu'il a répondu. Pas très fan de notre page, mais bref. Tu sais, les deux, on est allés fouiller chacune de notre bord, puis je pense que ça a été pas mal clair. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on en parle ici. Puis Michel, c'est maintenant que ça se passe.
Non.
C'est aujourd'hui que je vous raconte l'affaire Charles Marion.
Hey, je me souviens même pas si... J'ai bien hâte, vas-y.
Là, faut que tu saches que ma rédaction, elle a vraiment pas été facile parce que c'est comme une histoire à deux facettes. Tu vas comprendre ce que je veux dire plus tard, mais moi, je trouvais ça important de m'en tenir à la version de la famille Marion. Okay. Fait que je me suis principalement documentée à partir du livre qui a été écrit il y a quelques années par le fils de Charles Marion, M. Pierre Marion, qui a joué un rôle très important dans l'affaire.
Okay.
Son livre s'appelle « Victime au banc des accusés ». J'ai voulu prendre le temps de lire au complet là, pour être vraiment certaine de donner le bon ton. Puis, je te niaise pas, là, on pourrait faire un balado de 6 épisodes, je pense, juste sur cette affaire-là. Mais bon, j'ai décidé de condenser ça dans un seul épisode. Donc, vous comprendrez que j'ai vraiment travaillé fort pour garder vraiment l'essentiel là, pour vous faire comprendre le fil des événements. Mais je vous invite sincèrement à lire le livre là, pour connaître chaque détail de l'histoire. C'est vraiment important. Donc, premièrement, c'est qui Charles Marion, Monsieur Charles Marion? Donc, c'est un homme de 57 ans, marié, père de famille, deux enfants qui sont rendus maintenant adultes, un gérant de crédit de la Caisse populaire de Sherbrooke-Est. Bon, ça fait une trentaine d'années qu'il travaille pour le Mouvement des Jardins, un homme bien rangé. Le 6 août 1977, Charles va se rendre à son chalet de Stoke. C'est à environ 20 km de Sherbrooke. Bon, faut que tu saches qu'il a mis énormément d'efforts dans les dernières années pour se bâtir son petit coin de paradis là-bas. Bon, exemple, il y a un étang artificiel pour la pêche, un petit enclos avec des oies, des chèvres, là, tu vois le genre.
Mm-hmm.
C'est pas pour rien qu'il y a une petite enseigne écrite « Mon repos » sur la devanture du chalet. En fait, c'est comme ça qu'ils ont baptisé l'endroit, le chalet « Mon repos ». Cette journée-là, Charles va être accompagné d'une autre employée de la Caisse populaire, une femme qui fréquente en cachette depuis quelques années. En fait, c'est sa maîtresse, une prénommée Aline. Sa femme, elle assiste à un mariage à l'extérieur de la ville cette journée-là. Il va profiter de quelques heures avec Aline pour visiter le site du chalet, puis ensuite, il va se rendre en camionnette, en petit minivan, plus loin sur le terrain, vers l'étang. Là, il y a une petite maisonnette sur place. Il y a comme une petite maison, en fait, qui est utilisée comme hangar pour la nourriture des animaux. Mini chalet que Charles aimerait faire aménager comme petite maison d'invité éventuellement. Mais tu sais, il y a déjà une petite salle de bain à l'intérieur, une place pour dormir au besoin. Là, ils sont justement en train de visiter le petit hangar quand, tiens-toi bien, Michel, il y a deux hommes armés, bonnilons sur la tête, qui vont apparaître dans le cadre de porte. Puis, d'après le livre de Pierre Marion, ils vont dire quelque chose comme « Les mains en l'air, c'est un hold-up. Faites exactement ce que je vous dis, sinon vous allez le payer cher. Couchez-vous sur le plancher, sur le ventre, les mains sur la tête. Toi, Aline, place-toi à côté de la toilette. Charles, mets-toi ici à côté du divan, puis grouillez pas de là. »
Ah, mais ils utilisent leur prénom!
Oui! Hey, j'espérais que tu réagisses. Effectivement, ils sont pas là par hasard, Michel. Mais écoute, ils vont ligoter Charles, puis ils vont le cacher dans sa propre camionnette avec laquelle ils vont décider de partir. Avant de quitter, ils vont ligoter Aline, ils vont l'attacher à la cuvette de la toilette, puis ils vont la laisser là et partir avec Charles. Quelques heures plus tard, en soirée, Madame Marion, la femme de Charles, elle va arriver au chalet Mont-Repos. Bon, elle devait venir rejoindre son mari de toute façon. En arrivant, c'est un petit peu bizarre parce que les lumières du chalet sont allumées, la petite radio, elle fonctionne dans le garage comme d'habitude, le chien est dans le chalet, mais il n'y a pas la camionnette de son mari. Elle va être capable de voir avec les traces de pneus dans le gazon que Charles serait allé au hangar, ce qui est normal parce qu'il fait toujours une petite ronde là, quand il arrive au chalet. Mais pourtant, elle ne voit pas la voiture nulle part. Bon, elle va repartir en voiture à la route principale pour voir si elle ne croiserait pas en chemin, peut-être chez des voisins. Mais bref, il n'y a rien. Bon, il serait-tu retourné en ville pour aller chercher quelque chose? Écoute, ils sont à peine à 20 km de Sherbrooke, c'est fort probable. Fait qu'elle va retourner l'attendre au chalet. Minuit, toujours rien. À ce stade-là, je te dirais qu'elle est plus fâchée qu'inquiète, ce qui est totalement mon genre, là. Fait qu'elle va décider de barrer la porte puis se coucher pour la nuit. Moi, je bouderais, mais bref. Mais le matin, Charles, il est toujours pas revenu, tu sais. Fait que là, l'inquiétude, elle va embarquer, évidemment, mais c'est seulement vers midi qu'elle va décider d'appeler son fils Pierre. Bon, à ce stade-là, Pierre, il va essayer de la rassurer, mais il va quand même essayer de contacter des amis pour tenter le terrain, pour essayer de le localiser. Madame Marion, elle va décider de retourner en ville, mais avant de partir, elle va faire la ronde pour aller nourrir les animaux. Elle va se rendre au petit hangar, puis en se penchant pour prendre la nourriture, elle va entendre « Est-ce que vous pourriez me détacher, Madame Marion? » Je me serais évanouie sur place. Tu sais, Aline, presque 24 heures ligotée, elle avait pas osé faire un bruit depuis la veille parce qu'elle pensait que c'était encore les bandits qui étaient sur place. Mais c'était Madame Marion qu'elle entendait depuis le début.
Ou si peut-être qu'au fond d'elle, avait une petite gêne.
Ben là, non. T'es ligotée, là. Excuse-moi, la gêne, tu sais. Puis c'est sûr que Madame Marion a dû avoir un double choc, là. Premièrement, t'es qui? Deuxièmement, où est mon mari? Bref, les deux femmes sont en état de choc total. Aline a de la misère à expliquer clairement ce qui s'est passé, mais Madame Marion va comprendre vraiment rapidement que son mari s'est fait enlever par deux hommes armés la veille. Elle va vite appeler la Sûreté du Québec. 30 minutes plus tard, les premiers policiers vont arriver sur place. Ils vont interroger séparément les deux femmes pour avoir leur version des faits, puis évidemment, ils vont procéder à l'inspection des lieux, prendre des photos, chercher des empreintes. Bref, ils font officiellement face à un kidnapping. Charles et ses ravisseurs vont avoir roulé à peu près 45 minutes jusque dans la région de Gould où ils vont finalement continuer à la marche dans le bois une vingtaine de minutes. Là, Charles, lui, il a toujours une cagoule sur sa tête. Il a absolument aucune idée où est-ce qu'il est. Il comprend tellement rien de ce qui se passe, là. Pendant le trajet, les deux hommes avec qui ils voyagent, ben, ils vont quand même essayer de se faire rassurant en disant à Charles qu'ils vont pas y faire de mal puis que ça sera pas très long qu'ils vont arriver vers sa chambre d'hôtel, entre guillemets. Bon, ça se veut un peu arrogant, mais ils le brutalisent pas vraiment, là. Ils sont vraiment directifs, mais il y a pas vraiment de violence physique. Il y en a un des deux qui est un peu plus empathique envers Charles, puis il va finir par le surnommer son chum. Mais l'autre, qui est un peu plus le bad cop, là, si on veut, Charles, lui, il va le surnommer le boss. Donc, le chum et le boss. Ce sont ses ravisseurs. Ils sont en pleine forêt. Ils vont finalement arriver dans ce qui va être sa cachette, en fait. Ils doivent passer à travers un trou d'un peu moins d'un mètre de large, en fait, profond d'un mètre et demi, qui dit. Puis, rendus au bout de ce trou-là, ils doivent se mettre à genoux pour rejoindre une porte qui mène vers une pièce bétonnée, OK? À l'intérieur, c'est assez haut pour que Charles puisse se mettre debout. C'est un abri souterrain qui est en béton, c'est hyper hyper humide. On parle d'une dimension d'environ 3 mètres par 4 mètres, pas plus gros que ça. Il y a un trou d'aération dans le bas de la porte avec un tuyau qui mène jusqu'à dehors pour que l'air entre dans la pièce. Il y a un matelas de mousse, un sac de couchage, des chandelles, des allumettes, de la nourriture, de l'eau, beaucoup de gin, des cigarettes, des somnifères, puis une chaudière pour faire ses besoins. Bref, il y a de quoi survivre quelques jours. Le chum et le boss, ils disent qu'ils vont passer régulièrement pour vérifier qu'il manque de rien. Ils vont aussi l'attacher avec 3 chaînes qui sont attachées à un anneau fixé dans le béton. Donc, il y en a une à la cheville, une à la ceinture, puis une au cou.
C'était vraiment bien organisé, là, cela.
C'était très bien organisé, vraiment. Là, pendant tout ce temps-là, Charles, ben, il a toujours sa cagoule sur la tête. Il a la directive de l'enlever uniquement une fois qu'ils vont être sortis. À aucun moment, il est autorisé à voir leur visage, évidemment. Moi, Michel, j'ai bien de la misère à m'imaginer ce que Charles a ressenti dans les premières secondes où il a pu enlever sa cagoule pour découvrir sa cachette.
Hey, sérieux?
T'imagines-tu? Éclairé à la chandelle, il y avait vraiment toute une logistique là, qui s'est faite à l'intérieur de sa cachette au fil des jours. Il est vraiment, vraiment pris. Puis, en fait, il peut crier le plus fort qu'il peut. Il n'y a aucun son qui sort de cet abri-là. C'est vraiment sous terre, bétonné.
J'imagine pas quand, tu sais, ton adrénaline redescend, là. Ouais. Comme là, t'es rendu tout seul.
T'es tout seul. Puis la crainte que ces gens-là ne reviennent jamais.
Aïe, aïe, aïe.
Ça n'a pas été long qu'il s'est mis à avoir une armée de monde dans la maison familiale des Marion à Sherbrooke, évidemment. Des enquêteurs, des membres de la famille. La famille, elle a dû répondre quand même à une panoplie de questions. T'sais, refaire le fil des événements avant l'enlèvement, revoir les habitudes de Charles, ses fréquentations. Bref, c'est souvent très redondant. Mais la famille a toujours répondu de bonne foi aux questions des policiers. C'est Pierre, le fils de Charles, qui va se faire le porte-parole, si on veut, auprès des enquêteurs. Il devient, en quelque sorte, le représentant de la famille. Puis, tu vas comprendre plus tard qu'il va jouer un rôle majeur dans le dénouement de l'histoire. Mais là, à ce stade-ci, pour vrai, là, il n'est vraiment pas sorti du bois. C'est 2 jours après l'enlèvement, le 8 août, qu'il y a un premier communiqué qui est découvert dans le dépôt de nuit de la Caisse populaire de Sherbrooke-Est qui est à l'attention de M. Nebetz. Nebetz, c'est le nom Steben, écrit à l'envers, en verlan, comme on dit.
Mais voyons.
Qui est le directeur de la Caisse. Accompagné du message, il y a une photo de Charles avec une arme pointée sur lui. Les ravisseurs demandent une rançon de 1 million de dollars pour la libération de Charles, puis ils vont demander que les communications se fassent via les médias, notamment via un poste de radio de la région.
Mais voyons donc!
Ça, Michel, là, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les négociations vont se faire au su et à la vue de tout le monde. OK? D'ailleurs, plus tard dans la journée, la Caisse va faire diffuser un message à la radio, une réponse, en fait, au communiqué qu'ils ont reçu pour faire savoir aux ravisseurs qui sont prêts à discuter. Monsieur Nebetz désire parler à Monsieur Marion. C'est à partir de ce moment-là que la population entend parler d'enlèvement pour la première fois. Bon, est-ce que le fait de passer par les médias, c'est une stratégie pour alimenter la curiosité du public, peut-être, ou question de mettre de la pression sur le mouvement des jardins? Tu sais, c'est une drôle de stratégie de la part des kidnappeurs, quand même.
C'est une histoire incroyable. Qu'est-ce que vous racontez, Léonie?
Je le sais! C'est incroyable! Parallèlement à ça, la SQ va faire appel à une escouade particulière qui s'appelle l'Unité d'urgence de la Sûreté. On parle d'une équipe d'une quarantaine de policiers qui sont déployés au besoin pour prendre en charge les enquêtes majeures, comme les cas d'enlèvement, comme dans ce cas-ci. À leur arrivée à l'aéroport de East Angus le 9 août, donc on est le lendemain du premier communiqué, ils vont apercevoir par hasard une minivan qui correspond étrangement à la description de la voiture de Charles. Celle dans laquelle il a été enlevé. C'est en notant le numéro de plaque qu'ils vont se rendre compte que c'est effectivement celle de Charles qui a été abandonnée sur place, à côté de l'aéroport. Ça laisse présager que M. Marion aurait peut-être été amené quelque part en avion, tu sais, mets-toi à leur place, méchant casse-tête, pareil pour les enquêteurs qui commencent. Là, on est rendu 2 semaines depuis l'enlèvement. 2 semaines, OK? Sans être arrivé à quelque chose de concret, là, subitement, les dialogues vont complètement arrêter. Du jour au lendemain. Ils n'ont plus de nouvelles qui entrent de la part des 7 serpents. Les 7 serpents, en fait, c'est le nom que les kidnappeurs se donnent à leur communiqué. Silence radio pendant 2 semaines. On ne saura jamais réellement la raison de ce silence radio-là, Mais ça a été une période extrêmement pénible pour la famille, là, on peut juste s'imaginer. Donc, 2 semaines sans aucune nouvelle. C'est le 3 septembre, soit 28 jours après l'enlèvement, que les communications reprennent par écrit. C'est à cette période-là qu'ils vont s'entendre sur un nouveau montant de rançon de 500 000 $. Donc, il y a enfin, Michel, une première tentative d'échange qui se prépare. Mais avant, ils doivent décider qui vont être les deux émissaires pour suivre les indications et remettre la rançon. Donc, Pierre Marion, le fils, se porte volontaire, évidemment, puis la SQ va profiter de l'occasion pour exiger un polygraphe à Pierre. Eux, ils expliquent que c'est la norme s'il veut participer à la livraison de la rançon. Donc, Pierre, ben, il voit pas de problème, puis il va se rendre à Montréal dans les bureaux de la SQ pour faire le test. Mais l'entretien, Michel, va vraiment prendre une drôle de tournure. Tu sais, je savais pas, mais il y a toujours une discussion préparatoire aux questions, un peu pour déterminer l'angle des questions. Puis, hey, Pierre se rend compte que le technicien, là, il met beaucoup l'emphase sur la possible implication de son père dans son propre enlèvement.
Non.
Oui. Là, Pierre, il est comme vraiment catégorique. Voyons, ça, c'est quand même pas concevable à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites là? Voyons donc. Mais il réalise que la question est dans l'air, là. La question est dans l'air. Est-ce que les enquêteurs ont vraiment un doute là-dessus? Que son propre père serait mêlé à cette affaire-là.
Ouais.
Ça s'alignait très bien pour que Pierre puisse être l'émissaire, mais finalement, pas à cause des résultats du polygraphe, mais parce que les ravisseurs ont proposé eux-mêmes 2 noms pour la livraison de la rançon, les journalistes Normand Maltais et Claude Poirier. C'est pas tant une surprise, là, qui dit négociation dans les années 70, dit Claude Poirier. Là, petite parenthèse. Pour votre info, dans le livre de Pierre Marion, à la fin, il y a une chronologie complète des échanges entre les ravisseurs, la caisse, la SQ. Ça se fait toujours via les médias, comme je te disais tantôt, journaux, radio. C'est tellement long et inutile, puis ça piétine, ça tourne en rond. C'est pas lisable, je te jure. Ça parle en code. C'est des pages de communiqués. Bref, c'est vraiment pas compréhensible. Donc, c'est sûr que j'embarque pas dans les détails des communiqués, mais c'est très, très, très pénible à lire. Donc, ça donne une idée, en fait, de la lenteur du processus. Je dis ça parce qu'à cause des échanges interminables, justement, il y a une 20aine de jours qui séparent le retour des communiqués puis la première tentative d'échange. Donc là, on est rendu le 23 septembre, 48 jours après l'enlèvement. La caisse va faire préparer 2 valises qui contiennent 250 000 $ chacune à la demande des 7 serpents. Donc, Normand Maltais, Claude Poirier vont se rendre au point de rencontre avec la rançon. Puis là, à l'insu des 2 journalistes et de la famille, la SQ va échanger les valises pleines d'argent avec des valises pleines de cartons.
Pardon?
Oui. Ben, de toute façon, pour toutes sortes de raisons, l'opération se fait un peu dans la confusion. La tentative d'échange va échouer de manière lamentable. Apparemment que 2 gardes-chasse sur le site de l'échange qui auraient mis un frein à l'opération. C'est qui ces gardes-chasse-là? On le saura jamais réellement. Puis en tout, puis moi, Michel, est-ce que le 500 000 $ était plus important que la vie de Charles Marion à ce moment-là? C'est drôle, hein?
C'est
bizarre. Ben, c'est non, en tout cas. Bref, à mon avis. Mais bon, je me permets un petit éditorial en disant ça parce que c'est rien comparé à ce qui va être dit au bulletin de nouvelles de Radio-Canada 2 jours après la tentative ratée, qui dit que l'enlèvement serait une gigantesque supercherie. Et le journaliste ajoute qu'en sortant de sa cachette, Charles Marion pourrait bien rentrer en prison au lieu de rentrer chez lui.
Ben voyons donc, arrête!
Je n'ai pas trouvé le nom de ce journaliste. Je voulais le citer. C'est tellement choquant.
Mais c'est très intriguant, là. Continue, là. Je veux comprendre.
Alors, imagine-toi une seconde les conséquences que ça va avoir sur la crédibilité de l'affaire, là, face au public.
C'est arrangé, ça, bon.
La rumeur, est-ce qu'elle aurait été alimentée par les policiers, à ton avis? C'est ce que Pierre Marion pense, du moins, il y a des doutes là-dessus. Puis, tu te rappelles la passe du polygraphe?
Oui, mais, c'était déjà dans l'air. Oui, mais les policiers ont pas dit ça pour le plaisir, là? Je veux dire...
Et ça traîne. Il y a des rumeurs qui disaient que la voix qu'on entendait sur certains enregistrements des 7 serpents, que c'était peut-être la voix de Charles Marion. Il y a des faux témoins, je sais pas. Il y a des gens qui disent qu'ils l'auraient vu se promener dehors dans la région de Gould. Bref, c'est vraiment des rumeurs. Puis la population, faut pas oublier que c'est dans les médias, tout le monde est témoin de ça. Puis ça piétine tellement que les gens en perdent complètement l'intérêt.
Aïe, aïe. Continue. Moi, oui. J'ai pas perdu l'intérêt.
Mais justement, là, faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, Charles est toujours dans sa cachette. Le chum puis le boss vont le visiter sur une base régulière. Puis ils vont lui apporter les journaux. Fait qu'il voit ça, là, Charles, les tentatives ratées, les rumeurs sur lui. Il va se découper une photo de ses enfants dans le journal, puis il va l'accrocher au mur de son abri. Tu sais, c'est brisqueur. Par respect pour lui, je veux pas trop m'étendre sur ça, mais Charles va faire quand même 2 tentatives de suicide pendant sa captivité. La première avec les somnifères qu'il a en sa possession. Le chum va le trouver juste à temps. Ça va le rendre malade, mais sans plus. Puis une deuxième tentative, celle-là, elle m'a vraiment marquée, mais avec sa cagoule, en fait, puis un sac de plastique qu'il va essayer de retenir le plus longtemps sur sa tête. Mais bref. L'instinct de survie a été plus fort, il l'a retiré. Moi, pour vrai, je pense qu'il n'y a pas de mots qui doivent décrire la douleur et le genre de désespoir que cet homme-là devait ressentir à ce moment-là. Voir pas, tu vois pas le bout, là?
Non, tu vois pas le bout. Surtout quand tu as les échos du dehors qui disent que finalement, c'est pas sérieux tout ça.
Tu sais, il est journaliste, il n'y a personne de ton bord, t'as pas de crédibilité. Puis non seulement la rumeur que tu serais impliqué dans ton propre enlèvement quand tu es en train de vivre un méchant calvaire.
Non, c'est pas cool.
Non, c'est vraiment pas cool. Il y a une deuxième tentative d'échange le 29 septembre, 6 jours après la première. Donc, on est rendu 54 jours après l'enlèvement. Puis, encore une fois, une opération ratée pendant laquelle les 7 serpents vont mettre la main sur les valises pleines de cartons. Pas rien qu'insultant. Fait que suite à ça, les policiers, ils auraient même, entre autres, décidé de lâcher une meute de chiens pour essayer de les coincer. Il y a un avion qui survolait le secteur pour essayer de les localiser. Bref, ils veulent vraiment attraper les bandits, là, la police. Puis, la quantité de journalistes sur place qui écoutaient sur des ondes radio de la police. Ils se déplaçaient pour suivre l'action. Je te jure, c'est un vrai cirque médiatique, tout ça. Puis, à mon avis, ça a dû nuire un peu aux policiers aussi, au moment de cette opération-là.
C'est sûr.
La relation entre les enquêteurs, la famille, surtout avec Pierre, ça s'effrite pas mal à ce moment-là. Bon, l'opinion populaire les aide vraiment pas. D'ailleurs, écoute, je te disais tantôt, il y a des vox pop dans la rue où on entend des gens quand même en rire de la situation. Puis j'écoutais le balado Aujourd'hui l'histoire sur Radio-Can, puis il y a un petit épisode sur Charles Marion là, avec une journaliste, tout ça. Puis ils nous font écouter des extraits de ce vox pop-là dans la rue à cette époque-là. C'est grotesque, je te jure.
C'est donc bien bizarre.
Les gens, oh non, moi j'ai perdu l'intérêt, ça niaise trop. Oh non, c'est pas vrai, ça, cette histoire-là. Il y a même une madame qui dit, oh, moi, mon ami, il a écrit une chanson, cette histoire-là, puis la semaine à chanter. Monsieur Marion, Monsieur Marion, je te jure.
Même un de mes amis qui a commencé une chanson. Ah oh, oui, Monsieur Marion, mais je me souviens pas des mots.
Mais c'est ridicule. C'est complètement désolant.
Est-ce que ça se peut que l'histoire était tellement... c'est hollywoodien, là.
Oui.
Que les gens, comme, ils croyaient plus.
Ben, gens, ils croyaient plus. Par la durée, par les échanges, par les...
C'est
raté.
Bizarre.
Ils sont pas capables des trucs. Bref, ça joue vraiment pas en la faveur de la famille Marion, tu sais. Là, on arrive en octobre. Depuis le 6 août, hein, je te rappelle. Pierre va faire bouger les choses en demandant de l'aide d'un ami d'enfance qui est avocat criminologue, puis il va lui suggérer un plan. Parce que là, clairement, à ce stade-ci, la SQ a pas l'air prête à payer une rançon, là, je pense. Ça s'enligne pas non plus pour qu'il laisse s'échapper les ravisseurs au moment de l'échange. Fait que ça, évidemment, ça met la vie de Charles en danger. Donc, il propose que la famille Marion offre publiquement de payer un montant de rançon plutôt que ce soit la caisse ou la SQ. En fait, pour sauver la vie de Charles.
Mm-hmm.
Fait que dans le fond, les kidnappeurs, là, ils ont toujours été persuadés que la vie de Charles valait au moins 1 000 000 $ aux yeux du mouvement Desjardins. Mais avec les tentatives ratées, les valises remplies de cartons, les médias, puis tu sais, l'opinion publique, ben la vie de Charles, elle a perdu un peu, là, a perdu un peu de sa valeur aux yeux des kidnappeurs. Fait que après qu'ils échangent avec la famille, les 7 serpents vont demander un montant de 50 000 $ à la famille. On est loin d'un million.
Ouais.
Ça demeure quand même une somme énorme, mais la famille Marion va réussir à ramasser l'argent, puis ils vont orchestrer un plan pour l'échange directement avec les kidnappeurs. Mais quand même sous surveillance de la police, évidemment.
Mm-hmm.
Le 27 octobre, soit 82 jours après l'enlèvement, Pierre et son oncle vont suivre les consignes pour faire l'échange, mais cette fois-ci, ils vont essayer de faire ça quand même à l'affût des journalistes. Donc, c'est comme une vraie chasse au trésor. C'était vraiment stressant à lire, là. Exemple, rendez-vous au presbytère. Allez dans le bureau principal. Le téléphone va sonner, ça va vous dicter la prochaine consigne. Ensuite, allez récupérer une enveloppe sur un poteau devant l'usine Carnation. Prochaine consigne, rendez-vous à telle place. Roulez à telle vitesse sur tant de kilomètres et refaites la boucle 2 fois. À la troisième fois, lancer le sac d'argent dans le fossé. Hey, tu vois le genre, là?
Seigneur!
Mais ils vont réussir. Ils vont réussir à laisser le sac d'argent au bon endroit et au bon moment. Puis, en fait, dans une entrevue, Pierre raconte que ça a été la chose la plus stressante qu'il a faite dans sa vie. Puis, j'ai pas de misère à le croire! Voyons donc. Fait que là, ils attendaient les consignes dans les prochaines heures pour aller récupérer Charles. C'est le chum qui va retentir dans l'abri souterrain avec des vêtements propres en annonçant enfin que c'était le moment de partir, que la rançon avait été payée. Charles va suivre ses consignes, il est bien confus, puis il est un peu prudent aussi. Tu sais, c'est-tu vrai, là, ou c'est pas juste un plan pour me tuer, rendu là? Mm-hmm. Rendu là, il veut sortir, il va le suivre, puis les deux vont embarquer sur une moto. Donc, Charles va échanger sa cagoule pour des lunettes de ski opaques pour pas voir la route assis en arrière sur la moto. À un moment donné, ils vont débarquer, puis le chum va demander à Charles de marcher un petit peu plus loin, puis de s'arrêter, puis d'attendre trois coups de klaxon. Il lui explique que quand il va les entendre, il va pouvoir se diriger vers la voiture. Ça va être son fils.
Oh, mon Dieu!
De leur côté, Pierre et sa famille, écoute ça, ils vont avoir attendu 24 heures entre le moment où la rançon a été remise puis le coup de téléphone avec les consignes pour aller retrouver Charles.
Incroyable.
Ils doivent se rendre dans le stationnement de l'aéroport East Angus et klaxonner trois fois. Le 28 octobre 1977, dans le stationnement de l'aéroport, après trois coups de klaxon, les deux hommes, confus chacun de leur bord, évidemment, se reconnaissent de loin. C'est dans une montagne d'émotions, Michel, que le père et le fils vont se prendre dans leurs bras après 83 jours d'attente. L'enlèvement de Charles Marion, là, c'est l'enlèvement le plus long au Canada encore à ce jour. Presque un an plus tard, le 23 juin 1978, il y a un certain Michel de Varenne qui se fait reconnaître dans un bar de Sherbrooke par un ancien gardien de prison. Mm-hmm. Monsieur de Varenne s'est évadé de prison quelques années avant, puis rendu au poste de police, il va vider ses poches, puis il va ramasser vraiment vite un billet de 20$ qu'il va essayer d'avaler.
On est encore dans la même histoire?
Oui, c'est weird, hein? Ben, les policiers vont découvrir que le billet a un des numéros de série qui a été utilisé pour la rançon de Charles Marion.
No way.
Michel de Varenne, c'est le chum. C'est un méchant hasard pareil, là. Il va finir par dénoncer son complice, Claude Valence, dit le boss, et on apprend que c'est Valence, le cerveau de l'affaire.
Tu m'étonnes. C'est le boss.
Le boss. Si tu penses que l'enfer de Charles a fini le jour où il est sorti de sa cachette, Michel, ben, c'est pas le cas. Il n'a jamais été capable de retrouver son honneur à cause d'opinion publique, bien évidemment. Puis même après l'arrestation des kidnappeurs, ce ne sera pas plus facile. Le procès de Michel de Varenne et Claude Valence vont s'avérer être un vrai calvaire pour Charles. Parce que non seulement de replonger dans toute l'histoire là, en tant que témoin principal de la couronne, mais aussi de se faire carrément remettre sa parole en doute encore devant tout le monde par les avocats de la défense. Puis malheureusement, ben, le fait que sa crédibilité soit mise en doute, ben, ça va jouer dans la sentence de ses ravisseurs. Puis en tout cas, pour Claude Valence, parce que le boss, parce que dans le fond, par peur, Charles va jamais dire de façon officielle qu'il reconnaît la voix du boss. Ah. Fait que vu que ça va amener un doute raisonnable, ben, Claude Valence, il va être condamné à seulement 6 ans de prison pour extorsion. Pour le chum, lui de son bord, ben, il va le dire publiquement que Charles n'a pas joué un rôle dans son enlèvement. Charles va reconnaître publiquement sa voix aussi. Donc, Michel de Varenne est condamné, lui, à 12 ans de prison. Au cours des années qui vont suivre après le procès, ben Charles va évidemment avoir gardé des séquelles psychologiques vraiment importantes. Hein? Assez que malheureusement, il va développer une bipolarité. Ça va éventuellement mettre un terme à son mariage, il ne travaillera plus pour la Caisse populaire, il va s'isoler de plus en plus de ses proches, mais il va quand même finir par faire sa vie avec Aline, sa maîtresse. Ouais. C'est peut-être une des seules, en fait, qui comprend sa douleur.
Ben, en tout cas, qu'il croit à 100%,
ben, apparemment. Exactement. Elle était là.
Je peux pas croire. J'ai de la misère à imaginer que les médias sont embarqués là-dedans puis qu'ils ont complètement le victim-shaming
Même pendant le procès, Michel. Tu sais, tu comprends, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde,
Mais explique-moi comment Explique-moi, d'où ça part, ça? Je veux comprendre. C'est les policiers qui auraient un petit peu, genre, lancé ça dans l'univers?
En fait, l'escouade que je te parlais au départ, là, eux sont habitués de travailler sur différents enlèvements qui s'étaient produits au Québec. Puis, c'était jamais très, très long, en fait. Ils réussissaient, en fait, à déjouer ça, peut-être d'une semaine, deux semaines.
Okay.
Puis, ils commençaient à avoir des gens de oui-dire entre eux, devant les membres de la famille, tout ça, que le fait que c'était long, que ça amenait quelque chose d'un peu discutable, un peu louche, en fait. Puis c'est drôle parce que dans le livre, ce qu'ils disent, c'est que dans le fond, ce qui se disait au sein de la famille, les discussions de ce genre-là, bien, c'était probablement repris par les gens qui étaient sur place auprès de leur famille à la maison le soir, devant le souper, des discussions qui, tu sais, qui...
Des discussions de salon puis d'oreiller.
Tu comprends-tu? Bouche à oreille, ça, déformation, tout ça. Fait que finalement, en bout de ligne, il y a comme un genre de rumeur qui a commencé à sortir. Tu sais, c'était tranquillement. Puis comme je te dis, les communications étaient tellement compliquées puis lentes. En tout cas, bref, je pense que c'est peut-être ça qui a joué là-dedans. Est-ce que c'est entièrement les policiers? Je pense que les médias en ont joué pour beaucoup. Ils l'ont jamais réellement backé, là, Charles Marion non plus. Fait que ça l'a suivi pour le restant de ses jours. Fait que dans la nuit du 2 décembre 1999, Charles va se lever puis il va quitter son domicile. Il va se rendre à son chalet de Stoke, puis en arrivant là-bas, il va se coucher dans son lit puis il va s'enlever la vie avec une arme à feu.
Oh non!
C'est directement au cœur de Mon Repos, là où tout a commencé, en fait, le 6 août 1977, que Charles va finalement retrouver la paix, 22 ans après son enlèvement.
Bon, Annie, il est enfin arrivé le moment où tu vas apprendre de quelle histoire je te parle aujourd'hui.
Enfin!
Je pense qu'on n'a jamais dit à nos auditeurs encore que pour Captive, on se dit jamais d'avance de quoi ou de qui on va parler pour l'épisode qu'on s'en vient enregistrer. J'apprends ton sujet quand on commence l'enregistrement et la même chose de ton côté.
C'est très vrai.
Je te dis jamais rien sur l'histoire que je m'en viens raconter, même si, on va se le dire, toi, là, t'es pas mal plus curieuse que moi entre les épisodes. C'est pas rare que tu me demandes au moins le nom de la personne sur laquelle je travaille ou que t'es super excitée par ton sujet puis tu m'envoies des méga perches par texto, genre.
Je m'essaye!
Perches que je ne saisis jamais. Pour vrai, là, les gens, c'est à vous que je parle. Je jure sur la tête de ma fille que tout ça est bien vrai. On connaît jamais d'avance le sujet de l'autre et nos réactions sont authentiques. Annie, je peux te le dire là.
Vas-y.
Aujourd'hui, je te parle d'une histoire qui est d'une infinie tristesse pour plein de raisons. Une histoire qui date de 1985, puis pour te dire la vérité, je l'ai repérée avec Dossier Mystère, l'émission, là, la version québécoise, animée par Jean Coutu.
Jean Coutu?
L'acteur, là, pas la pharmacie.
Niaiseuse.
L'émission est disponible sur YouTube, puis je l'ai réécoutée bien sûr pour l'épisode d'aujourd'hui, mais elle a été diffusée pour la première fois en 90. Puis je te jure, Annie, que je m'en souvenais de cet épisode-là. J'écoutais Dossier Mystère assidûment avec mes parents, j'avais genre 9-10 ans, puis même si ça me semi-terrifiait, là, je manquais jamais un épisode. Et je te jure que je me suis souvenue de cette histoire-là. Une histoire qui, 31 ans après que j'en ai entendu parler pour la première fois, reste encore un mystère. Ben laisse-moi te le raconter, ce grand mystère, celui qui entoure la disparition d'Isabelle Bourgeot. Isabelle est née le 19 octobre 1953 en France. Ses parents, René et Gisèle, émigrent au Québec 4 ans plus tard. Ils s'installent dans la ville de Québec, donc la petite Isabelle n'a pas grand souvenir de sa vie en France. Au fil des ans, elle devient une jeune femme qu'on décrit comme super enjouée, curieuse, vraiment intelligente, une fille pleine de vie finalement. Elle a une adolescence heureuse, super bien entourée avec beaucoup d'amis. C'est une étudiante brillante, bref, une vie active et bien remplie qui se déroule parfaitement normalement avec, j'imagine, ses hauts, ses bas, comme toi, comme moi, Annie, là, comme la plupart des jeunes adultes de son âge. Mais on le sait, Annie, des fois, la destinée de quelqu'un peut prendre une trajectoire complètement nouvelle en un claquement de doigts, puis changer complètement le cours d'une vie comme ça, sans avertir. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé à Isabelle, le 23 juillet 72, quand la voiture dans laquelle elle prenait place a percuté le pont de l'île d'Orléans et a fait un plongeon de 70 mètres dans le fleuve Saint-Laurent.
Oh mon Dieu!
70 mètres.
Oh Annie, mon Dieu!
C'est environ 220 pieds.
Ça n'a pas de sens! Le gros pont, là!
Ouais.
À bord de l'auto, il y a aussi Hélène Dontigny et Christian-Pierre Candotti, les deux meilleurs amis d'Isabelle. Tous les deux meurent sur le coup. Isabelle, à 19 ans, est devenue ce jour-là la seule survivante de l'accident. Elle s'en sort avec une sévère commotion cérébrale et, on s'en doute, un très, très violent choc nerveux. Bien, à partir de ce terrible dimanche-là, en juillet 72, la trajectoire de vie d'Isabelle Bourgeot va complètement changer. Elle, qui était, comme on disait, une fille dynamique, enjouée, qui avait devant elle un brillant avenir, bien, elle va se voir complètement transformée.
Oh.
Elle souffre maintenant de dépression sévère. Elle porte sur ses épaules une énorme culpabilité d'être encore en vie alors que ses amis sont morts. Rajoute à ça d'immenses troubles de mémoire dus à la commotion cérébrale. Au fil des ans, sa vie va se détériorer à ce point qu'elle va finir par être internée à l'hôpital psychiatrique Robert Giffard, à Québec, en 1978. On va la diagnostiquer avec un trouble obsessionnel compulsif sévère, doublé d'un trouble d'adaptation. Hey, je te l'avais-tu dit que cette histoire-là était vraiment triste, hein?
Terrible.
C'est à peine commencé, puis j'ai déjà le cœur en miettes.
Je vois même pas comment, où est-ce que ça peut s'en aller pire.
Ben, puis crois-moi, ça s'en va pire que ça. Alors, Isabelle est internée depuis 1978, puis ses traitements fonctionnent bien. Son état est stabilisé. À ce que j'ai compris, elle est à l'hôpital à temps plein. Elle en sort jamais ou presque. Mais arrive en 1980 une vague de désinstitutionnalisation au Québec. Donc, les patients psychiatriques soignés dans les hôpitaux depuis super longtemps sont remis aux familles, quand il y en a, pour les envoyer vers des ressources externes plutôt que les garder en institut. On le sait, même si ça a des avantages, ben ces congés d'hôpitaux-là ont aussi fait naître une autre réalité pas mal moins jojo, celle des patients sans réseau qui se retrouvent soudainement à la rue sans suivi.
Oui, l'itinérance.
Ouais. Mais c'est pas le cas d'Isabelle, heureusement. Elle a des parents qui l'adorent et qui l'attendent à la maison. Ils l'accompagnent dans la maladie, dans les nombreux processus que ça engendre, plusieurs rendez-vous, plusieurs suivis. Ils sont avec elle pour traverser tout ça. Ils sont très proches. Et elle est super bien encadrée médicalement parlant, là, même si elle n'est plus hospitalisée. Et c'est d'ailleurs sous les conseils de son équipe psychiatrique que les parents d'Isabelle décident, en 1982, donc à peu près 2 ans après sa sortie de l'hôpital, de lui louer un petit appartement dans le quartier Limoilou, toujours à Québec. Pour les curieux, comme moi, l'appartement est situé au 1101 2e Avenue. Vous commencez à le savoir, moi j'adore ce genre de détails.
Attirer les curieux.
Bon, alors, la maladie est sous contrôle, les traitements vont bien et même si elle n'a pas les capacités de travailler, son équipe médicale est d'avis que d'avoir un peu plus de responsabilité puis d'autonomie, ben, ça va lui être bénéfique. Donc, bien sûr que les parents gardent un œil sur elle, mais selon les nombreuses sources que j'ai lues ou vues, Isabelle s'en sort bien, somme toute, là. Au fil des ans, elle devient même bénévole dans un centre d'aide pour les itinérants, selon l'épisode de Dossier Mystère. Puis, elle arrive à bien fonctionner malgré tout. Mais pourtant, on raconte du même souffle que ses problèmes de mémoire puis ses épisodes de psychose deviennent de plus en plus fréquents. On raconte, entre autres, dans un article du Soleil du 15 juillet 92 que, ben, c'était pas rare de l'avoir porté, mettons, 2-3 robes à la fois, une par-dessus l'autre.
Oh.
Ou qu'elle enfile son manteau d'hiver en plein été, par exemple. Il y a aussi un épisode où elle s'est ouvert les veines solidement à 4 endroits sur le bras gauche. Bref, elle n'avait pas aussi bien qu'on le voudrait, là, clairement. Mm. Puis en rétrospective, on dirait que c'est évident que quelque chose allait imminemment arriver. Elle n'était probablement pas dans d'assez bonnes conditions mentales pour être laissée à elle-même, même si elle était suivie. Mais je ne sais pas, j'imagine que quand tu es en plein dedans, c'est plus difficile de faire la part des choses. Puis tu dois tellement espérer fort que les médicaments reprennent le dessus puis que la vie reprenne son cours. T'sais. Bref, on est qui pour juger? Mais en tout cas, il me semble quand même que tout ça, là, ça augurait pas super bien pour la suite. C'est le 5 novembre 1985, alors qu'Isabelle a maintenant 32 ans, que son propriétaire appelle M. et Mme Bourgeot pour leur signifier que leur fille a toujours pas payé son loyer et qu'ils n'arrivent pas à la rejoindre. Puis ça, ben, c'est assez inhabituel. Les parents d'Isabelle s'en vont immédiatement à l'appartement pour se rendre compte que le logement est dans un état pitoyable. C'est vraiment le bordel. C'est sale, puis c'est vraiment, vraiment pas entretenu, là, disons-le comme ça.
À cause d'elle, dans le sens, c'est pas parce qu'il y a nécessairement eu une altercation, quelque chose. Là,
pour l'instant, c'est ce qu'on sait, ouais.
Okay.
Puis même si, bon, Isabelle est pas là, mais toutes ses affaires sont là. Ses clés, son sac à main, son portefeuille, tout est là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est assez évident. Annie, c'est souvent rendu à ce point-ci de mes histoires que je te dis que c'est à ce moment-là que la personne a été vue pour la dernière fois, puis que depuis ce temps-là, puis personne n'a revu le ou la disparue. Mm-hmm. Mais pourtant, dans le cas d'Isabelle, je suis loin de pouvoir te dire une affaire de même. Même si c'est effectivement à ce moment-là qu'on perd sa trace officiellement, le mystère qui entoure Isabelle Bourgeot est grand et il est loin d'être simple. Bon, évidemment, dans les jours qui suivent, la police est appelée et les recherches commencent. C'est assez frustrant parce qu'il y a plusieurs témoins qui disent l'avoir vue entre le 6 et le 13 novembre. On se rappelle, c'est le 5 novembre qu'on a compris qu'elle était introuvable depuis quelques jours. Bon, par exemple, toujours dans l'épisode de Dossier mystère, la préposée à l'accueil de l'hôpital Robert Giffard, l'hôpital psychiatrique où elle était traitée, dit l'avoir vue, elle, autour du 10 novembre. Elle dit s'en souvenir parce qu'Isabelle lui aurait demandé de l'argent pour un café, chose que, évidemment, bon, la préposée n'a pas pu lui donner, là, vu les politiques de l'établissement. Isabelle serait alors allée s'installer tranquillement dans les escaliers pour rester là un bon bout. Selon la préposée, là, Isabelle avait un comportement vraiment étrange, puis elle avait l'air vraiment perdue.
Mais tu sais, c'est drôle, elle s'est quand même réfugiée là.
Ouais, ben.
Dans un endroit qu'elle se sent en sécurité.
Exactement. On l'aurait aussi aperçue dans un petit restaurant pas loin de chez elle, super confuse. Apparemment, elle se promenait de table en table, puis elle parlait tout seule, encore autour des mêmes dates. Bref. À cause des gens qui disent l'avoir croisée, la mère d'Isabelle est légèrement rassurée. Au moins, elle a été vue. Elle peut raisonnablement conclure qu'Isabelle est encore en vie puis qu'elle est juste en cavale, là, en guillemets, là, désorientée, en psychose peut-être. Mais l'espoir de la retrouver saine et sauve dans les prochains jours est vraiment grand. Sauf qu'après ça, plus rien. Ces témoignages-là sont dans les seuls que la police retrouve. Ce serait donc la dernière fois que quelqu'un aurait rapporté avoir vu Isabelle dans la ville de Québec. Ceci dit, depuis 1986, Annie, il y a eu une vingtaine de témoins qui ont rapporté avoir vu et reconnu Isabelle Bourgeot. La plupart viennent de la région de Montréal. Je suis vraiment pas chemin d'envie avec les visages puis les noms. Là. Ça m'impressionne vraiment toujours quand j'entends des témoins être absolument sûrs d'avoir connu quelqu'un ou qu'un suspect est arrêté parce qu'un citoyen l'a reconnu.
Ben ça dépend. Parce que là, si ces affiches sont placardées, parce que là, ça vient d'arriver, puis c'est le sujet de l'heure, peut-être. Là.
Mais il faut dire que Isabelle a des signes très distinctifs sur le visage.
Ah, OK. Ben là, ça aide.
Oui. Elle a 5 grains de beauté assez marqués qui forment un demi-cercle sur sa joue gauche, ce qui la rend quand même assez facile à reconnaître. Puis, elle porte aussi ben, les cicatrices de sa mutilation sur le bras gauche. Il faut aussi dire que ses parents ont fait des pieds et des mains pour la retrouver et qu'il y a eu de gros efforts collectifs pour diffuser le plus possible sa photo et sa description dans les journaux au fil des ans. Donc, son visage est assez familier dans le paysage médiatique à ce moment-là. Je te montre sa photo,
ouais,
Annie.
Je l'ai pas vue.
Est-ce que ça dit quelque chose?
Je suis pas sûre si ça me dit quelque chose. Mais comment? Excuse-moi, là, tu montres cette photo-là, c'est sûr que je la reconnais dans la rue.
Je veux dire, là, tu l'as dans les mains, là, mais si tu te promènes, puis tu, ben, tu dois te dire, mais voyons, je connais-tu cette personne-là? J'ai-tu déjà vu? C'était-tu elle? C'était-tu pas elle? Puis à un moment donné, tu passes à un autre appel.
Le réflexe. Je pense que j'étais allée au secondaire avec ça. Non, mais pour vrai, les grains de beauté sur sa joue, c'est frappant.
Ça, c'est frappant.
Hey, je sais pas, ça me dit vaguement quoi, mais je te dirais, je peux pas dire.
Bon, bien évidemment, il y a eu des témoignages, somme toute assez difficiles à vérifier, mais il y en a eu quelques-uns d'assez crédibles. Par exemple, celui de Pierrette Hamel, une préposée dans un centre d'entraide de Montréal. Elle est 100% certaine d'avoir connu Isabelle sur la rue. Elle rapporte qu'elle agissait comme une enfant de 7 ou 8 ans et qu'elle semblait être itinérante. Comme moi, t'as sûrement envie de dire, « Mais Pierrette, pourquoi t'as pas appelé la police? Voyons! » Ben, la réponse est vraiment simple, mais d'autant plus désolante. En fait, Pierrette croyait dur comme fer qu'Isabelle avait été retrouvée depuis longtemps.
Ouais, pourquoi?
Ouais. Je sais pas.
Attends, elle pensait qu'elle était juste là par hasard, hein, qu'elle se promenait.
C'est ça,
pas
que cette histoire-là était réglée. Là.
Ah, mais c'est terrible, ça!
Ouais, ben c'est ça. Des témoignages comme ça, il y en a eu plusieurs. Fait que les parents d'Isabelle ont décidé d'engager un détective privé pour aider à l'enquête et leur donner un coup de main pour démêler tout ça. À ce que j'ai compris, il y a eu 2 détectives privés plus actifs dans l'affaire. Et leurs conclusions, à l'époque, sont assez surprenantes. On est en 1992, OK? Selon eux, Isabelle est encore vivante. Il y a eu beaucoup de témoignages crédibles de gens qui l'ont reconnue, trop, selon eux, pour que ce soit à chaque fois une erreur sur la personne. Toujours selon les conclusions du rapport, Isabelle ne sait probablement plus qui elle est.
Ah, oh, mon Dieu!
Rappelle-toi, elle est partie sans ses papiers d'identité. Bon.
Ah! Oh.
Si ses troubles de mémoire se sont détériorés au point où elle a elle-même oublié qui elle est, Ben, c'est pas évident pour les autres non plus de l'identifier, hein.
Ah, oh, Michel!
Ils avancent aussi qu'au point où on en est, Isabelle a très bien pu changer d'identité, de façon volontaire ou non. Une chose qui n'aide pas, Annie, qu'il faut que je t'explique, c'est que, comme Isabelle est majeure, elle est donc protégée par la loi de l'accès à l'information et au respect de la vie privée. Donc, les hôpitaux, les services sociaux, puis même la police, ils n'ont pas le droit de signaler aux parents quoi que ce soit qui concerne Isabelle si Isabelle n'est pas d'accord.
Ben voyons, il y a un avis de recherche.
Donc, est-ce que ça se pourrait qu'Isabelle ait elle-même décidé de changer d'identité et de ne pas en informer ses proches pour X raisons? Est-ce que ses troubles mentaux ont pu, par exemple, la rendre paranoïaque au point où elle s'imagine que ses parents ne veulent pas son bien et qu'elle est plus en sécurité en restant anonyme? Ou alors, suis-moi, Annie, est-ce qu'Isabelle a été encore une fois remise entre les mains d'autorités médicales? Puis comme elle n'est pas identifiable dans la mesure où elle ne sait pas et qui, est-ce que les autorités gouvernementales lui ont assigné un numéro seulement?
Oh mon Dieu, arrête!
Ça, j'ai trouvé ça tellement bizarre.
Attends, là, ça se peut, ça?
Mais c'est ça, apparemment, c'est plausible.
Mais voyons!
Et ça s'est déjà vu dans des circonstances similaires. Je sais pas pour toi, là, mais moi, il me semble que le Québec, là, c'est pas grand, là.
Ben...
J'aurais pensé que dans des circonstances de même, on présente une photo de la personne aux nouvelles, genre, puis on demande à la province, « Yo, y a-t-il quelqu'un qui sait c'est qui, ça? »
Puis excuse-moi, regardez le visage. Mais reconnaissable, là.
Bref, tu vois bien que c'était un sacré caillou dans l'engrenage d'être freiné comme ça dans la quête d'informations sur leur fille. Donc, monsieur et madame Bourgeot sont allés jusqu'en Cour supérieure du Québec pour obtenir le titre de représentant légaux d'Isabelle, ce qu'ils obtiennent en 92.
Okay.
En fait, pour simplifier l'affaire, disons simplement qu'on traite maintenant Isabelle comme si elle était une mineure. Mm-hmm. Donc, les parents ont pu avoir accès aux informations qui sont autrement confidentielles. Toujours selon l'article du Soleil de 92, ils ont donc pu apprendre que le nom d'Isabelle Bourgeot n'apparaît dans aucun fichier d'hôpital, ni au Québec, ni au Canada. Ils ont aussi pu voir que son numéro d'assurance sociale est utilisé pour aucun bénéfice gouvernemental ou aide quelconque. Bon. Isabelle a donc pas uniquement disparu dans la vie de ses parents, elle est disparue sur papier aussi. Même si moi, ça me donne malheureusement l'impression qu'Isabelle est probablement morte, ben ces faits-là ne découragent pas du tout ni les détectives privés, ni les parents d'Isabelle. Annie, je te laisse lire la conclusion du rapport du détective privé Donald C. Loisel.
Un enquêteur de la Sûreté du Québec m'informe qu'à sa connaissance, dans certains cas de réinsertion sociale, les bénéficiaires sont identifiés par un code plutôt que par leur nom, pour des fins administratives. Serait-ce la raison de la disparition d'Isabelle des fichiers gouvernementaux?
Donc, clairement, ils ont l'air de penser que ça se peut, tu sais. On se croirait dans un film d'espionnage, de conspiration, là. Un citoyen à numéro. C'est de la science-fiction pour moi, là, ça. Un autre truc qui est bizarre dans l'histoire d'Isabelle, c'est que dans toute la documentation puis la couverture journalistique de son histoire, on retrouve à peu près aucune trace de la version officielle des policiers ou de leurs recherches. Annie, c'est la première fois que j'ai ce feeling-là en montant un épisode. Ça donne vraiment l'impression que les parents d'Isabelle ont eu à se démener tout seuls pour essayer de retracer leur fille. Probablement parce qu'il n'y avait aucune trace ou indication d'un crime et que, bon, Isabelle était atteinte de maladie mentale puis qu'elle était adulte. C'est comme si sa disparition était moins grave, entre guillemets. Mais pour ses parents, là, c'est pas moins grave, là. C'est ton enfant qui est disparu puis qui est introuvable.
C'est parce que c'est pas un enlèvement. On le sait, elle se promène, elle erre par elle-même puis c'est une adulte. Hey, c'est...
La mère d'Isabelle est décédée maintenant, mais elle a fini par croire qu'Isabelle était coincée dans une secte ou prisonnière de quelqu'un de très mal intentionné. Elle n'a jamais pensé qu'elle était morte, en tout cas, comme on n'a jamais retrouvé son corps. Son père, puis je l'ai confirmé avec le réseau Enfants Retour, il est encore vivant. Il a presque 100 ans aujourd'hui. Et dans chacun des ouvrages que j'ai consultés, il parle avec autant d'émotion de sa petite Isabelle disparue qui aurait 68 ans aujourd'hui. Il est de tous les reportages, il s'est battu sur tous les fronts pour sa fille, c'est bien touchant, là. Puis moi, il y a quand même quelque chose qui m'a marquée de ses parents. Quelque chose qu'ils ont répété souvent en entrevue, puis je sais pas si ça donne un indice supplémentaire sur les circonstances de sa disparition. Tu me diras ce que t'en penses.
Okay.
Plusieurs fois en entrevue, ils s'adressent directement à Isabelle. Puis ils la rassurent qu'ils sont pas là pour venir prendre ou reprendre le contrôle sur sa vie, qu'ils veulent simplement s'assurer qu'elle va bien et qu'elle manque de rien et qu'elle est toujours vivante.
Est-ce qu'Isabelle en a simplement eu plein son casse un matin, puis que, je sais pas, elle a cédé à un criant besoin de liberté? Ou est-ce que c'était trop lourd à porter, tous ces suivis puis ces rendez-vous-là? Ou est-ce que c'est juste sa tête qui a joué de vilains tours?
On le saura jamais.
Non. Incroyable, mais 36 ans plus tard, on n'est pas plus près d'une réponse qu'on l'était le matin du 5 novembre 85.
Captive est enregistrée à Montréal au studio Madame Wood. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Une idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Thème musical, l'indice.
Pour communiquer la moindre information à propos d'Isabelle Bourgeot, il ne faut pas hésiter à contacter la Sûreté du Québec au 514-598-4141.